Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwoo Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwoo Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Crise, urgence, souffrance, les termes associés à la psychiatrie française aujourd'hui en disent long sur l'état de cette spécialité médicale. Le secteur de la santé mentale touché ces derniers mois par des conflits parfois durs dans une dizaine d'établissements, des mouvements sociaux allant dans certains cas jusqu'à l'occupation des locaux et la grève de la faim. Une tension, des revendications qui portent sur les conditions de travail comme sur l'impact pour la prise en charge des patients, des personnels, médecins, infirmiers, aides-soignants, débordés, épuisés, conscients, parfois au mépris de leur éthique, de ne pas pouvoir dispenser les soins appropriés. La psychiatrie, parent pauvre de la médecine, reconnaissait en septembre la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn. Pas assez de moyens, personne ne le conteste, mais pas seulement. La psychiatrie souffre de l'inadaptation des réponses en termes de qualité des soins et de budget, d'effectifs, d'immobilisme dans les réponses, associés au regard de la société sur ses patients et leurs maladies. Psychiatrie en état d'urgence qui appelle des solutions multiples pour rattraper les retards, former les personnels, spécialiser les approches, repenser l'organisation comme le parcours des patients dans et en dehors de l'hôpital et soutenir la recherche. Solutions multiples et ambitieuses pour une psychiatrie qui désespère à force d'attendre. Psychiatrie, l'état d'urgence, c'est le titre du livre que vous avez co-signé avec le professeur Marion Leboyer. Professeur Pierre-Michel Lorca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie, chef de service au CHU de Clermont-Ferrand, directeur des soins de la Fondation Fondamentale. Psychiatrie, l'état d'urgence, livre publié aux éditions Fayard. Crise qui touche tous les établissements à différentes échelles dans le pays. C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec le docteur Dominique Straub, psychiatre au centre hospitalier de Roanne en région Rhône-Alpes. En fin d'émission, on va évoquer le coup d'envoi aujourd'hui de la campagne du Pasteur Don, opération annuelle d'appui au don de l'Institut Pasteur à laquelle RFI participe. On va en parler avec Pascal Vonache, post-doctorante à l'Institut Pasteur qui co-dirige le projet de recherche Afribiota.
Priorité santé sur RFI.
Bourges, Saint-Étienne, Rennes, Amiens, mouvement de grève. On se souvient l'été dernier près de Rouen, de l'hôpital du Rouvray. 3 mois de blocage, d'occupation, plus de 2 semaines de grève de la faim pour certains personnels. Action désespérée pour obtenir des créations de postes, pour attirer aussi l'attention des autorités. Une crise qui n'est pas ponctuelle, elle est globale, elle est multiple. Et votre livre, professeur Pierre-Michel Lorca, qui sert un de colonne vertébrale à cette émission aujourd'hui, reflète la profondeur de cette crise avec 2 aspects différents que vous traitez. D'abord l'état des lieux, également des propositions, toute une série de propositions. Professeur Pierre-Michel Lorca, cette crise, ce n'est pas un simple problème de soins ni d'argent, c'est vraiment un problème de société.
En effet, je crois que d'un côté, la société reste avec une absence de vision de la maladie mentale qui est très stigmatisée et quelles que soient les évolutions, ça reste quelque chose dont on ne peut parler aisément. Ça, c'est la première chose. Et de l'autre côté, l'hôpital, de manière générale, est en difficulté, mais l'hôpital, les services de psychiatrie au sein de l'hôpital, les centres hospitaliers psychiatriques, ont des difficultés bien spécifiques qui sont liées à la nature des pathologies soignées et des gens dont on s'occupe. Et d'un autre côté, à les modalités de soins qu'on met en œuvre en psychiatrie et les techniques de soins. On parle de techniques, j'insiste là-dessus, car on dit parfois qu'il n'y a pas de progrès technique en psychiatrie, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Et en fait, ces deux éléments-là, puisqu'on travaille souvent sur des personnes, sur des relations, sont des éléments qui donnent toute la spécificité à la crise de la psychiatrie.
Alors justement, crise multifactorielle, on ne peut pas simplement dire il manque de moyens, professeur Pierre-Michel Lorca, dimension matérielle, les budgets, les effectifs d'ailleurs pour mettre fin à ces crises ponctuelles, il y a eu justement des créations de postes, mais il y a ces facteurs moraux que vous avez évoqués rapidement, bien sûr la stigmatisation, quand le regard n'est pas le bon, eh bien le soin n'est pas forcément le bon, ou du moins il peut arriver beaucoup trop tard.
Exactement. C'est-à-dire que quand on perçoit soi-même, quand on a l'idée de soi-même, avant même de savoir qu'on a atteint d'une pathologie psychiatrique, que On peut pas parler à un psychiatre que avoir une maladie mentale, c'est être fou et que c'est très effrayant. Eh bien, on nie les symptômes qu'on ressent et on ne cherche pas d'aide. Et rien que ce mécanisme initial retarde l'accès aux soins. Et ça contribue. Alors, ce sont des maladies qui se soignent, qui peuvent véhiculer un espoir dans la capacité des soins. Ce sont parfois des maladies chroniques, ce sont parfois des maladies très invalidantes, il ne faut pas le nier, mais pour autant, les moyens existent, il faut les développer, il faut les soutenir, et donc cette lutte contre la stigmatisation est essentielle.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des sociétés, des pays qui vivent mieux avec leurs malades mentaux ?
Je crois que ça reste toujours difficile. Il faut pas se leurrer. Je crois que ça serait vraiment un peu idyllique de penser que certaines mesures se modifient ça. Mais pour autant, il y a des sociétés qui font plus d'efforts, on va dire, pour essayer de changer cela. Alors, bien évidemment, il y a des facteurs culturels. Donc, la représentation de la maladie mentale est différente d'un continent à un autre. Ça ne veut pas dire qu'elle est vécue forcément plus simplement, mais elle est différente et avec parfois moins la notion, par exemple, qui est très présente dans les sociétés occidentales de la dangerosité liée à la maladie mentale. Il y a des sociétés dans lesquelles la perception du sujet qui souffre d'une maladie mentale n'est pas la même. Et donc, pas forcément avec cette notion de dangerosité. Mais il y a des sociétés occidentales qui font des efforts plus importants pour avoir des stratégies d'inclusion proactive des gens qui ont des troubles psychiatriques, que ça soit dans le milieu de l'éducation, que ça soit dans le milieu du travail. Et ça, c'est déjà des éléments essentiels. Et la France n'est pas en pointe là-dessus. On peut pas dire qu'on est les derniers au monde, ça serait des plaintes qui seraient pas justifiées.
Surtout, on le voit en termes d'effectifs, hein, vous le dites, on est un des pays les mieux lotis en psychiatrie.
Exactement, je veux dire, on peut pas simplement résumer les choses à cela. Mais il y a beaucoup de choses qui se font en France, mais on voit qu'il y a possibilité de faire mieux, et pourquoi ne pas être ambitieux pour des maladies, pour la prise en charge de gens qui souffrent de maladies qui sont aussi invalidantes pour eux et pour collectivement la société.
Ce qui peut sembler décalé, hein, vous dites un Français sur cinq souffre de troubles mentaux, à différentes échelles bien sûr, d'après des études épidémiologiques récentes. Il y a ce regard sur les malades, mais professeur Pierre-Michel Lorca, il y a aussi le regard sur cette médecine, la psychiatrie. On a encore plein de clichés, on a encore plein d'images, les électrochocs, la contention, ça peut arriver, mais ce n'est pas ça aujourd'hui la psychiatrie.
Exactement, par exemple la contention. La contention est un problème réel très important. Et tous les rapports récents qu'il y a pu avoir fait sous l'égide du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui ont mis en avant des pratiques, c'est très important qu'il y ait ce regard de la société. La contention, c'est une réalité parce que une des particularités des pathologies psychiatriques, c'est qu'on est confronté à des gens qui n'ont pas conscience du trouble et qui peuvent se mettre en danger et mettre en danger autrui.
J'explique juste pour nos auditeurs, ceux qui n'ont pas forcément le vocabulaire pour cela, la contention, c'est des sangles, hein, on retient quelqu'un sur un lit, on le bloque. On avait l'image avant de la camisole de force, quelqu'un qui est ligoté dans le dos par cette chemise nouée en arrière. C'est plus vraiment ça, c'est d'être bloqué sur son lit pour éviter de se donner des coups ou de frapper même les soignants.
Exactement. Donc ce sont des stratégies qui sont maintenant extrêmement réglementées, très encadrées, mais pour autant, c'est quand même des situations extrêmement douloureuses, violentes. Une des spécificités. Alors, si on résume les problèmes de la psychiatrie au problème de la gestion de la contention, ben effectivement, on ne voit que ce côté très effrayant. Mais ça représente, heureusement, une infime minorité de patients qui ont besoin de ce type de soins, qu'on essaie d'éviter au maximum.
Justement, on essaie d'éviter, mais certains personnels soignants en détresse l'ont dit. Des fois, on est contraint d'en arriver là parce qu'il manque de mains pour s'occuper, il manque d'écoute, il manque de personnel. Et on en revient à des méthodes qu'on voudrait éviter, mais on n'a pas le choix.
Effectivement, et on a un problème qui est, par exemple, on pourrait dire un problème de parcours patient. On débattait récemment dans mon hôpital avec tous les gens de l'agglomération clermontoise sur cette problématique, le parcours du patient du moment des urgences à une hospitalisation, voire aux soins au long cours. Et bien, plus ce parcours est difficile parce qu'on manque de qualité de passage d'une structure à une autre, qu'on manque de moyens médico-sociaux, par exemple, et bien on se retrouve avec des situations d'urgence qui arrivent dans les services d'urgence et dans lesquels, comme ils ne trouvent pas de solution, se produit parfois des agitations liées au contexte, mais à la maladie aussi, et on est obligé d'utiliser la contention. Et on voit bien que c'est l'ensemble du système qui, à ce moment-là, dysfonctionne, puisqu'ensuite, ça entraîne, bien sûr, la crainte de la violence pour les soignants, qui ne sont pas là pour ça, ils ne sont pas là ni pour subir des violences, ni pour faire subir des violences.
Ce ne sont pas des agents de sécurité.
Exactement, et donc en fait, ça modifie et ça fait perdre le sens des choses. Donc on sait, quand on fait de la psychiatrie, que parfois, pour des raisons qu'on comprend, on peut priver les gens de liberté. Ça fait partie de la loi, le cadre légal existe. Et ça représente un certain nombre de situations. Mais par moment, on ne le fait pas par rapport à la situation clinique du patient, mais par rapport au contexte où on n'arrive pas à trouver d'autres solutions.
Contexte qui conduit, hein, c'est quelque chose d'essentiel, vous le pointez à plusieurs reprises dans votre livre, au retard de diagnostic, retard très préjudiciable, parce que là on parle du soin, on parle des traitements, vous le dites, les 5 premières années de la maladie, pour beaucoup de pathologies, eh bien c'est crucial, c'est là qu'on peut vraiment faire un traitement, décider d'un traitement, un protocole qui peut marcher.
Absolument. On sait que les premières années de la maladie, sur un certain nombre de maladies comme les troubles bipolaires, comme la schizophrénie, sont des moments qui, à la fois, on a une sorte, pour faire très schématique, d'emballement biologique du cerveau qui peut avoir des conséquences délétères. Et de l'autre côté, il y a aussi le moment, c'est le moment de fin de l'adolescence, le jeune âge adulte, on construit sa vie, on fait des études, on trouve un travail, on noue des relations affectives. Et ces moments-là sont perturbés par la maladie. Et si plus on intervient tôt, plus on a la possibilité d'améliorer les choses, d'éviter les conséquences et de construire un pronostic favorable. Et puis deuxièmement, de manière très très pratique, pour un individu donné, plus on intervient à un niveau de symptômes modéré, faible, précocement, avec des stratégies qui ne sont pas forcément médicamenteuses, le traitement en psychiatrie, ce ne sont pas que les médicaments, loin de là, eh bien, à ce moment-là, on évite des situations de crise.
Comme n'importe quelle maladie.
Exactement. Je veux dire, quelqu'un, dire à quelqu'un, voir quelqu'un précocement pour un problème en lui disant, bah, c'est mieux que vous maigrissiez parce que vous aurez moins de conséquences cardiovasculaire, c'est mieux que de le voir au moment où il a fait un infarctus et il est dans la salle d'urgence et on est obligé d'avoir des traitements extrêmement agressifs. Bien, c'est exactement la même logique. Et c'est important puisque, en fait, le problème, c'est que l'identification des troubles précocement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des éducateurs dans le milieu de l'éducation, c'est l'affaire des médecins de première ligne, en médecine générale, c'est l'affaire de l'environnement familial. Et en fait, bien sûr, on va pas déclarer tout le monde porteur d'une maladie, mais si on ne fait pas attention à des signaux, eh ben, on arrive souvent à la crise, et après se déclenchent tous les phénomènes qui peuvent être vraiment délétères.
Mais vous le dites en même temps, il y a des structures publiques pour justement faire ce repérage, mais ces structures, elles sont complètement saturées.
Exactement, elles sont saturées et souvent en plus, alors il y a la question des moyens, parce qu'il y a quand même une problématique de moyens dans un certain nombre de domaines, et puis la question de la coordination, de l'organisation. Par exemple, il y a un dispositif tout à fait remarquable qui existe en France, qui est la Maison des Adolescents, mais quand on regarde les Maisons des Adolescents, elles ont des pratiques extrêmement différentes, dans des contextes extrêmement différents, et en fait, certaines sont très en interaction avec l'environnement médical, par exemple, d'autres beaucoup moins. Et il y aurait vraiment une réflexion à faire qui a été engagée déjà suite à différentes mesures au cours des 3 dernières années, mais qui vraiment pour optimiser la présence et les relations entre toutes ces structures. C'est vraiment quelque chose qu'on peut observer en France, et il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de structures qui existent, mais la coordination, les relations entre elles, quand quelque chose n'est pas connu, il n'est pas assez utilisé. Ça ne va pas plus loin que ça.
Alors on a parlé de ce retard de diagnostic, de la stigmatisation. Stigmatisation, le terme avait été repris par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Elle s'était adressée fin janvier dernier à la communauté psychiatrique francophone qui était réunie à l'occasion de la 16e édition du congrès de l'encéphale.
Malgré l'augmentation de la prévalence des maladies mentales, la prévention est insuffisante et les diagnostics trop tardifs. De la même façon, l'inclusion sociale des personnes malades est insuffisante et les politiques publiques ne se sont pas saisies de l'accès de cette population à une vie active, à une vie citoyenne. Aujourd'hui encore, les troubles psychiques demeurent un tabou, un objet de stigmatisation. Le constat est unanime. La psychiatrie est une discipline d'avenir, mais l'organisation des soins en santé mentale et leur place dans la société n'est pas à la hauteur de ce constat.
Un extrait de l'intervention de la ministre Agnès Buzyn. Depuis ce discours, il y a eu le plan santé du gouvernement avec des mesures pour la psychiatrie. Vous l'avez accueilli comment, professeur Pierre-Michel Lorca, ce plan ?
On ne peut qu'être satisfait qu'il y ait un plan qui prenne en compte la psychiatrie. Donc, de manière générale, moi, j'ai tendance à être positif. Après, quand on regarde dans le détail, par exemple, dans les mesures, donc dans le dossier qui a été remis autour de la présentation du plan, il y a 3/4 de pages sur la psychiatrie, sur une 50aine de pages. Très bien, la psychiatrie identifiée comme une priorité, tant mieux, et je ne peux que le saluer. Après, quand on parle par exemple de, très concrètement, stigmatisation, il y a marqué qu'il faut améliorer l'information autour des maladies. il s'agissait pas de décliner un ensemble de mesures. Je trouve quand même que c'est insuffisant. C'est insuffisant.
C'est des intentions davantage que des mesures.
Augmenter l'information, bon, ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, comme je le dis, il suffit pas de 3 campagnes d'information pour modifier le regard sur la maladie mentale. Il faut un engagement durable au niveau de la société qui modifie le regard et ces stéréotypes que j'ai évoqués. Et penser que ça peut se faire avec une stratégie d'information, c'est insuffisant. Quand elle évoque au cours du congrès de l'encéphale, comme dans l'extrait que vous venez de passer, la nécessité de l'organisation. Nous, on évoquait, avec dans les propositions que nous faisions dans ce livre avec Marion Le Boyer, on évoquait la nécessité de coordination d'une agence. Or, en fait, cet aspect-là est totalement occulté. L'agence ne semble pas une priorité. Alors, moi, je ne sais pas, je ne suis pas en charge des politiques publiques et je peux comprendre toutes les contraintes qui existent pour nos responsables. Il ne faut pas non plus tout le temps négatif. Mais en même temps, cette notion de coordination évoquée disparaît dans ce plan. Elle n'apparaît pas en tant que telle. Il y a un comité stratégique a été mis en place, qui se réunit une fois par an avec éventuellement des réunions intermédiaires. Je ne pense pas que ça suffise à coordonner toutes les problématiques qu'on connaît. Donc ça, c'est pour ça que... Bon,
un décalage bien. Entre le constat et entre la réaction.
Exactement. On a eu des constats très importants. Comme Mme Buzyn a dit, la psychiatrie ne doit plus être le parent pauvre de la médecine. C'est des mots forts, c'est important. Mais on constate que dans la mise en œuvre au cours des mois qui viennent de s'écouler, vous l'avez souligné, dans les hôpitaux, la mise en œuvre de, ce n'est pas le parent pauvre, mais les réductions budgétaires sont présentes. Donc il y a quand même un décalage entre une intention affichée, là purement de moyens, et ce qui se passe, premièrement. Et deuxièmement, quand on voit les propositions qui sont faites, bien on a tendance à être un petit peu circonspect et parfois un peu déçu par le fait qu'elles nous paraissent insuffisamment ambitieuses par rapport à ce qui avait été dit il y a quelques mois.
C'était un plan hôpital psychiatrique, vous le soulignez dans le livre. Aujourd'hui, la psychiatrie est essentiellement encore hospitalière, même s'il y a bien sûr des consultations en ville et d'autres structures. Et justement, c'est là un des leviers pour changer les choses. Arrêter un petit peu ce que vous désignez comme l'hospitalocentrisme, c'est bien cela. Est-ce que c'est différent justement dans d'autres pays, avec des systèmes de santé bien sûr comparables à ceux de la France? Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives en dehors de l'hôpital? Est-ce que c'est justement important de sortir de l'hôpital, sans le rayer bien sûr, mais qu'il y ait des relais pour aller dans l'autre vie, celle qui est en dehors de l'hôpital, professeur Lorca?
Je crois que c'est très important et c'est vraiment un élément essentiel. Et il y a beaucoup de pays alors qui ont été faits parfois, par exemple en Italie, où il y a eu un mouvement de désinstitutionnalisation assez brutaux, qui ont été faits à partir des années 80, qui ont eu quand même des conséquences intéressantes en termes d'organisation de soins, mais parfois délétères. Enfin, c'est ce que disent les collègues italiens. Il y a des organisations comme dans certains pays nord-américains comme le Canada, où il y a quand même beaucoup de développement de structures ambulatoires. Le problème en France, c'est que ce virage ambulatoire, il est dans l'esprit même de l'organisation sectorielle, c'est-à-dire une organisation qui peut hospitaliser les gens, mais aussi les suivre en ambulatoire. Sauf que la psychiatrie, il y a eu pratiquement 60, au cours des 25 dernières années, 60 000 lits supprimés, avec moins de 15 000 place d'ambulatoire mise en œuvre.
Pour donner une idée aux auditeurs, j'ai pris les chiffres dans votre livre.
Bien sûr.
Entre 90 et 2011, la France a fermé plus de la moitié des lits de psychiatrie. C'est énorme.
Et sauf que on a ouvert plus de trois fois moins de places ambulatoires. Parce que quand on ferme des lits, il faut les remplacer par les mêmes moyens en ambulatoire. Soigner des gens en ambulatoire, ça nécessite, une fois de plus, la discipline psychiatrique, je l'ai dit tout à l'heure, nécessite des professionnels. C'est une des spécificités. On a besoin ce qui supporte la technicité psychiatrique, ce sont les compétences des professionnels. Donc on a besoin de professionnels, on n'a pas besoin de machines dans l'état actuel des choses, on a besoin de professionnels.
Et vous le soulignez aussi, je trouve ça très intéressant, plus il y a de personnel affecté à un patient, moins de temps il reste à l'hôpital.
Absolument. Parce que on peut identifier très précocement, par exemple en ambulatoire, ce que j'évoquais tout à l'heure. Si vous voyez quelqu'un à un stade, que ce soit à la phase initiale de la maladie, mais au cours de l'évolution de maladie chronique, très précocement, quand quelques symptômes apparaissent, des problèmes de sommeil, des problèmes d'anxiété, des choses comme ça, on peut intervenir et éviter la dégradation qui fait que si vous ne le revoyez qu'au bout de 3 mois, ben il a eu le temps d'avoir une évolution péjorative, et à ce moment-là, l'intensité des symptômes conduit à l'hospitalisation. Donc c'est vraiment un système qui s'auto-entretient dans un aspect assez délétère. Et c'est pour ça qu'il faut des mesures extrêmement volontaristes, proactives, pour interrompre ce cercle-là.
Alors avant de poursuivre cet échange avec vous, professeur Pierre-Michel Lorquin, on va partir pour Roanne, région Rhône-Alpes, 400 km au sud-est de Paris, département de la Loire, voilà, c'est situé. Roanne, où vous êtes psychiatre, docteur Dominique Straub, bonjour.
Bonjour, madame Paré.
Vous exercez...
Bonjour, professeur
Lorquin. Bonjour.
Vous exercez au sein d'un pôle de psychiatrie, à côté de l'hôpital, c'est bien ça. Alors comment ça se passe justement, le travail entre votre structure et l'hôpital général?
Alors, mon champ d'exercice correspond effectivement à la configuration de la psychiatrie à l'hôpital général, comme on l'a bâti il y a quelques années. C'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur d'un hôpital multi-activité. Donc c'est un gros hôpital général, puisqu'il fait à peu près la totalité, fait 1000 lits, dont 410 de médecine chirurgie obstétrique. Et nous sommes vraiment dans l'hôpital, puisque nos bâtiments ont été reconstruits en 2012, juste en face l'hôpital général, en plein centre-ville de Roanne, qui est une petite ville de 30 000 habitants. Donc on dessert un bassin d'environ 150 000 habitants. Et nous avons également suivi l'évolution de l'hôpital général, puisque nous faisons partie d'un groupement hospitalier de territoire, et actuellement le fait de s'intriquer dans l'hôpital général, puisque nous avons une direction commune avec le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.
Est-ce que vous considérez aujourd'hui, docteur Straub, que les moyens qui vous sont alloués sont à la hauteur par rapport aux personnes qui viennent vous consulter, par rapport à ce que vous pourriez faire aussi dans le domaine de la prévention, par exemple?
Alors, la grosse difficulté de nos budgets, pour entrer sur des termes techniques sans trop détailler, c'est que nous sommes financés par une dotation globale. C'est-à-dire que nous recevons la même somme tous les ans. Ce qui nous distingue de nos collègues de l'hôpital général, qui eux sont financés à l'activité. Et tout l'hôpital est centré sur le fait d'augmenter l'activité, alors que pour nous, quelle que soit notre activité, nous sommes financés pareil. Le problème, c'est que cette enveloppe a été calculée à un temps donné et qu'elle n'est pas réévaluée. Donc globalement, nous perdons des moyens quasi tous les ans. Si on avait fait le calcul d'une manière différente, par exemple par rapport à notre activité, notre budget serait de 8%, et si on nous rapportait à la moyenne géopopulationnelle, c'est-à-dire faire la moyenne des équipements et de l'argent pour 160 000 habitants, nous aurions un budget 48% plus important.
Est-ce que ça veut dire que ça se traduit aussi en termes d'effectifs, docteur Straub?
Bien sûr, c'est-à-dire que si vous voulez, nous sommes très correctement dotés en ce qui concerne l'hospitalisation continue. Alors on dispose de 50 lits pour 150 000 habitants, mais ça fonctionne bien puisque nous avons une durée moyenne de séjour de 17 jours, ce qui est très court pour de la psychiatrie. Et par contre, nous sommes sous-dotés en ce qui concerne l'extra-hospitalier, bien qu'on ait diversifié nos prises en charge. On a été estimé en évaluation externe comme ayant fait ce qu'on appelle le virage ambulatoire, c'est-à-dire que 60% de nos moyens sont consacrés à l'extra-hospitalier et 40% pour l'intra-hospitalier. Elle s'éparpille sur 14 structures et nous devons couvrir également les besoins psychiatriques de la prison, qui est un gros établissement de 600 places spécialisées dans les auteurs de violences sexuelles. Donc ce qui fait que nous avons beaucoup de dispositifs qui sont très bien organisés, qui correspondent aux normes actuelles, puisqu'on fait de la réhabilitation avec la remédiation cognitive, on a un centre de thérapie familiale systémique, enfin on a beaucoup de structures, mais par contre ces structures sont extrêmement fragiles parce qu'il y a peu de personnes. Et en plus, nous sommes confrontés au problème de la démographie médicale, qui fait qu'actuellement nous avons un tiers de nos postes vacants avec la pédopsychiatrie, et ce qui fait que c'est compliqué et nous devons recourir à des remplaçants intérimaires.
On va revenir précisément tout à l'heure sur cette question de la pédopsychiatrie. Je me tourne à l'instant vers vous, professeur Pierre-Michel Lorca, par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Et on le lit dans votre livre, c'est général, hein, ce problème d'inégalité territoriale, ou du moins d'inadaptation. Comment se fait-il que les budgets alloués n'évoluent pas en fonction de la démographie, des besoins, tout simplement des besoins? C'est étonnant de voir que des institutions publiques ne fassent pas se corréler les réalités de terrain et l'offre justement qui sera dispensée par le secteur hospitalier.
Oui, c'est un des grands problèmes. Il y a eu tout un débat autour de cette dotation annuelle de financement, cette enveloppe qui est décidée a priori avant. Et en fait, c'est vrai qu'on sait que la tarification à l'activité donne beaucoup d'effets délétères. Les établissements, on le voit en médecine, chirurgie obstétrique, les établissements font des activités les plus rentables. Or, en fait, il faut soigner l'ensemble de la population, et c'est ça qui est important, et l'ensemble des pathologies. Donc en fait, c'est pas une solution en soi. Mais en fait, le problème de ces dotations annuelles de financement, même s'il y a eu des péréquations, des travaux de péréquation qui ont été faits ARS, par région donc, les agences régionales de santé organisent et ont essayé de moduler les choses, on se retrouve très fréquemment avec une augmentation des dotations annuelles de financement qui est inférieure à ce qu'on appelle le glissement vieillissement technicité, qui est le vieillissement de la population des professionnels qui existent, qui gagnent en ancienneté, donc qui sont payés plus cher, et également l'inflation. Donc en fait, de facto, il y a une diminution. Et on n'a pas de corrélation directe. Et les modalités de calcul sont extrêmement difficile à comprendre. On va dire ça comme ça pour pas dire totalement opaque, et en tout cas, on n'a pas une visibilité par rapport à ça. Et l'exemple qui était donné par le docteur Straub est frappant, c'est-à-dire que on a réduit les lits, on a fait un virage ambulatoire dans beaucoup d'endroits, mais en fait, ça s'est fait, on va dire que au lieu, comme je le disais, de transférer les moyens de l'hospitalisation au suivi ambulatoire, eh bien, ils se sont perdus en route. Et donc, en fait, les deux tiers des moyens se perdent, entre guillemets, c'est vont ailleurs. Et donc, en fait, on a besoin d'autant de moyens en ambulatoire qu'en hospitalier. C'est un constat, si on veut faire des soins de qualité. Le coût n'est pas le même après, etc., mais on a besoin de ces moyens-là. Et malheureusement, le virage ambulatoire ne passe pas dans ces cas-là par le maintien de l'ensemble des moyens. Alors c'est en train petit à petit de changer, mais on reste encore très ténu, et une fois de plus, il y a une distance entre les déclarations et la réalisation sur le terrain.
Docteur Dominique Straub, on vous retrouve, un psychiatre à Roanne. Vous disiez effectif à flux tendu, des retraités aussi non remplacés dans votre établissement. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'une certaine partie de votre activité, voire une grosse partie de cette activité, c'est de gérer les urgences?
Alors là, alors effectivement, alors vis-à-vis des urgences, nous sommes confrontés à d'autres problèmes. Sur Roanne, il n'y a pratiquement pas de psychiatres libéraux, puisqu'il n'y a que 3 temps partiels qui sont installés en cabinet. Nous avons des déserts médicaux au niveau médecin généraliste. Il y a un an, 10 000 patients sur les 30 000 habitants de Roanne n'avaient plus de médecin traitant à cause des départs à la retraite. Donc le filtre fait par, si vous voulez, ce qu'on appelle la première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes ou les psychiatres libéraux, ne fonctionnent plus. Donc on s'est restructuré et on a donc créé, nous, une unité de soins psychiatriques non programmés pour permettre aux personnes de venir sans rendez-vous. Du coup, quand tout s'effondre, on sait que la psychiatrie devient une psychiatrie de l'urgence, c'est-à-dire que nous faisons les pompiers, alors que nous savons qu'il faut agir au contraire très précocement, effectivement. Et je vais donner un petit exemple. Dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, nous arrivons à la conclusion, après quelques années d'exercice, qui est qu'il faudrait faire de la prévention, et ça pose le problème d'arriver à faire des actions de prévention chez les enfants. Donc, si vous voulez, on se rend compte qu'actuellement, le système attend que les problèmes apparaissent pour commencer à les considérer, alors que des actions précoces, effectivement, permettraient de corriger les choses et permettre qu'elles n'apparaissent pas. Alors c'est très compliqué, parce qu'on est dans un champ complet quand même de la complexité.
Alors, il y a un sujet que vous avez abordé, je voudrais qu'on y revienne si vous voulez bien, docteur Dominique Straub, c'est la pédopsychiatrie. Vous l'avez souligné, des problèmes vraiment crus de ce côté-là, des problèmes aigus, c'est quelque chose de national. Ça se traduit comment, justement, quand il y a des carences en matière de pédopsychiatrie pour les enfants ou les adolescents qui ont des troubles mentaux? Comment ça se traduit ?
Alors la très grosse difficulté, c'est effectivement la prise en charge. C'est d'abord le premier rendez-vous, c'est-à-dire quel est le délai du premier rendez-vous. Or, chez les enfants, c'est terrible d'apprendre que le premier rendez-vous est à 6 mois, voire un an, pour régler un problème qui pourrait être réglé rapidement. Alors, comment on répond à ça? Si vous voulez, ce qui se fait, ça a été de créer des postes paramédicaux, ou des postes de psychologues qui permettent de suppléer aux carences au niveau de la pédopsychiatrie.
Au sein de la structure hospitalière, parce que va se poser aussi la question du remboursement dans ces cas-là, de la prise en charge.
Alors, au sein de la structure hospitalière, on n'a pas ce problème, puisque, si vous voulez, les personnes, la tarification se fait par l'intermédiaire de l'hôpital.
Je comprends bien, mais quand vous dites on a recours à des psychologues, si vous envoyez ces jeunes patients, bien sûr leurs parents, vers des structures d'aide psychologique, en général, les gens le savent en France, ce n'est pas remboursé. Comment font ces personnes, alors que normalement, on va dire, c'était à l'hôpital de les prendre en charge?
Mais là, si vous voulez, quand les psychologues sont à l'hôpital, c'est ce que j'évoquais, si vous voulez, sont reçus par des psychologues et non pas par des médecins. C'est c'est une première approche. Mm-hmm. Ça permet de trier, si vous voulez, de donner une réponse quand même pour ne pas laisser un problème sans réponse. Alors le problème des psychologues libéraux, effectivement, c'est le non-remboursement. Et ce qu'on voit d'expérience, c'est que des parents vont faire 4 consultations non remboursées et puis en général abandonnent pour différentes raisons. Et le problème des soins précoces et de la pédopsychiatrie, c'est surtout que si on agit très précocement, les problèmes n'apparaissent pas à l'âge adulte. C'est le cas par exemple des personnes violentes qu'on est amené à traiter à l'heure actuelle, c'est le problème actuellement des incivilités, de tout ce qu'on peut voir comme passage à l'acte, hein, qui vont jusque aux personnes hyper violentes, qui est la clinique ce qu'on appelle la pathologie de l'agir est une clinique qui grandit beaucoup à l'heure actuelle pour différentes raisons, et on sait que les racines des difficultés donc se font dans la petite enfance sur des troubles d'attachement et on aurait la possibilité d'agir précocement comme ça existe dans d'autres pays. Par exemple, le Canada a des campagnes de repérage précoce et d'aide précoce pour des enfants en difficulté, ce qui ne se fait pas du tout dans notre pays, puisque dès que l'on veut détecter des enfants à problème, c'est assez mal reçu par la société.
Docteur Dominique Straub, excusez-moi, j'ai une dernière question. Vous vous exprimez en tant que psychiatre, on sait que ce malaise, il concerne tous les personnels, je ne peux pas vous demander d'être porte-parole des infirmiers ou infirmières psychiatriques, mais quand même, est-ce que vous avez l'impression que votre analyse, votre ressenti, on le retrouve dans toutes les catégories professionnelles à l'hôpital psychiatrique?
Mais tout à fait. Mais je pense que c'est contrasté parce que, en même temps, ce qui est formidable, c'est que ce soit les psychiatres comme les infirmiers, les psychologues, c'est que nous sommes passionnés par notre profession et que les personnes font énormément sont prêtes à faire énormément d'efforts pour que la situation s'améliore. La grosse difficulté, c'est qu'il faut beaucoup plus de formation parce qu'effectivement notre discipline se spécialise. Nous avons des unités très spécialisées. Quelquefois, il faut des années de formation pour que quelqu'un soit opérationnel. Et là, si vous voulez, il ne faut pas être dans l'urgence et pour pouvoir avoir le temps que les gens partent en formation. Mais ce point de vue est effectivement partagé par l'ensemble de la profession qui attend que quelque chose change.
On l'a bien compris, des efforts sur le long terme. Merci beaucoup, docteur Dominique Straub. Merci d'avoir apporté votre éclairage de Roanne, où vous êtes psychiatre au centre hospitalier.
RFI à Paris, 89 FM.
Professeur Pierre-Michel Lorca, on a évoqué justement cette crise particulière dans une crise globale, crise de la pédopsychiatrie. Pourquoi justement on en est arrivé à une situation aussi critique ?
Je crois que c'est la conjonction d'un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, une sorte de crise des vocations avec quelque chose qui s'auto-entretient, puisque d'un côté, la pédopsychiatrie dans un certain nombre de cas, a eu des difficultés à évoluer par rapport à des concepts théoriques et à des modalités d'organisation qui font que, par exemple, il y a eu des grands conflits autour de la prise en charge des patients souffrant de troubles du spectre autistique et des choses comme ça qui ont entraîné quand même une difficulté et probablement cette crise des vocations. Et puis deuxièmement, c'est ensuite un phénomène qui s'auto-entretient. Vous avez moins de professionnels, moins de gens qui sont sur le terrain, donc les gens sont surchargés et ça devient quelque chose qui, au lieu de donner des satisfactions, comme on en entend tous dans le travail, parce que on fait un métier de soignant pour apporter des soins aux gens et les soutenir et travailler dans l'interaction, eh bien on se retrouve dans des situations où en fait on gère une fois de plus les urgences, les éléments les plus difficiles qu'il faut gérer, mais qui entraîne cette crise des vocations. Donc à la fois quelque chose qui a à voir avec les enjeux mêmes, le soubassement théorique de la pédopsychiatrie, et de l'autre côté les conséquences. Et après vraiment c'est un phénomène qui s'auto-entretient.
Professeur Pierre-Michel Lorca, on a dressé cet état des lieux, hein, cette psychiatrie en crise. Tout à l'heure en début d'émission, on entendait la ministre Agnès Buzyn employer l'expression « les moyens ne sont pas à la hauteur », peut-être même aussi les réponses. Un constat réalisé sur de nombreux manques. Au-delà de l'analyse, du plaidoyer, vous faites des propositions concrète. Est-ce que ce livre, ce petit pavé assez complet, a suscité des réactions justement du côté des autorités, en particulier du ministère de la Santé ?
Écoutez, nous l'avons adressé à Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. Et en fait, elle m'a répondu d'un courrier disant qu'elle en prendrait connaissance et bonne note. Donc, voilà la réaction qui tenait en quelques lignes que je peux vous communiquer.
Donc, vous attendez la suite.
Exactement. Nous avons organisé avec la Fondation Fondamentale, mais également l'Institut Montaigne, qui nous a soutenus dans la réalisation de ce livre, et la Fondation Sisley, qui a été notre partenaire, un colloque à l'Assemblée nationale la semaine dernière, où on a pu réunir des gens plutôt dans la sphère politique. Donc c'était sous l'égide d'un des députés des Hauts-de-Seine, Adrien Taquet. Il y avait le président de la commission des affaires sociales du Sénat, Alain Milon, qui a été fait plusieurs responsables de plusieurs rapports sur la psychiatrie, et puis des membres des associations de patients, puis d'autres professionnels comme des géographes de la santé. Et on a essayé justement de contribuer au débat public en soulignant ces propositions. Là. Donc on voit bien que certains politiques s'intéressent au débat, ne s'en saisissent pas encore. Les autorités, on va dire, en charge au gouvernement, ont des réactions pour l'instant. Effectivement, la question qui se pose, c'est, on a fait des propositions et c'était important de souligner, comme cela a été dit par Dr Straub précédemment, il y a beaucoup de gens qui sont très impliqués, et il y a vraiment des perspectives et il y a de l'énergie positive.
Nous, mais il faut un élan, il faut que quelqu'un s'engage. Moi, je vais faire référence, vous faites référence à cela dans votre livre, le plan cancer. Quand Jacques Chirac s'est engagé en 2003 sur, justement, ses efforts complets, globaux, à mettre en œuvre pour la maladie, est-ce qu'aujourd'hui il faut un plan psychiatrie comme ce qui a été une telle impulsion au début des années 2000 pour lutter contre le cancer?
Je crois que c'est vraiment de ça dont il s'agit, puisqu'en fait il y avait un double mouvement, un mouvement donc porté par les politiques, mais qui a impulsé une vision différente à la société sur cette maladie-là, d'un côté, et de l'autre côté, de la mise en œuvre d'une politique d'État qui structure les choses et qui coordonne les choses. L'Institut National du Cancer n'était pas consacré simplement à diffuser les progrès techniques, mais favoriser l'homogénéisation des pratiques. On le dit dans le livre blanc de la cancérologie qui avait été publié avant ce plan.
Mais c'est ce plan notamment qui a contribué à l'interdiction générale de fumer dans les lieux publics. C'est très concret.
Exactement, très concrètement. Et quand on a dit ça, on a dit mais c'est impossible. Ça ne se fera jamais. Ne pas fumer dans les lieux publics, vous n'y pensez pas. Aujourd'hui, maintenant, quand on va dans un restaurant, si on est à proximité d'une terrasse où ça fume, on est gêné. Mm-hmm. Et ça a modifié très simplement ces types d'attitudes. Donc ça a de multiples impacts qui modifient en profondeur. Et là, par exemple, le tabagisme va un petit peu à la baisse. C'est difficile, c'est compliqué cette problématique-là, mais ça se juge dans le temps et ces types d'actions-là sont essentielles.
C'est une affaire de quoi ? Une affaire de politique ou une affaire de budget ?
Moi, je pense que c'est d'abord une affaire de politique. On vit dans un pays qui, il faut le dire, par rapport à de nombreux pays, est un pays riche. Je veux dire, quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés dans notre société, et l'argent, il y a des possibilités d'investissement, et la psychiatrie est un sujet dans lequel les politiques doivent décider d'investir au sens large.
Justement, ces propositions, vous en faites 25, on va bien sûr, il nous reste quelques minutes, on ne va pas toutes les citer. Vous abordez le problème dans la globalité avec pas mal de questions qu'on a déjà abordées. Justement, quand on fait cet état des lieux, quand on souligne les problèmes, on commence déjà à esquisser certaines des solutions. Mais notamment, je me suis arrêtée sur un opérateur, un individu, on va dire, qui fixerait le cap, qui définirait une vision stratégique. Professeur Lorca, ce serait qui? Un expert, un médecin qui...
Quand on parle d'opérateur, c'est plutôt notre idée, c'était plutôt d'abord une agence. Une agence. Et en fait, ça pourrait être il ne s'agit pas de monter encore un énième machin, comme on dit, mais vraiment une agence très opérationnelle qui coordonnerait. Une fois de plus, il y a de nombreuses initiatives, il y a de nombreuses choses qui se font dans beaucoup de champs. On n'a pas parlé de la recherche, mais la recherche est un champ extrêmement important. Et la recherche, souvent, il y a une sorte d'assimilation avec purement la recherche biologique, mais la recherche en sciences humaines dans le domaine est essentielle. Tous ces éléments-là, et il faut coordonner. Les financements de la recherche, c'est pour la recherche clinique, le ministère de la Santé, pour les autres aspects de la recherche, l'enseignement supérieur de la recherche, des ministères qui marchent main dans la main, mais malgré tout, ce sont des ministères différents. S'il n'y a pas quelqu'un pour coordonner cela, eh bien on perd une énergie considérable.
Parce que cette énergie, elle est mise avant tout au service du patient. Vous évoquez à plusieurs reprises le terme de parcours de vie. Bien sûr, il y a la vie à l'hôpital quand on est en crise aiguë. Il y a la vie à la sortie de l'hôpital. Et on peut dire, professeur Pierre-Michel Lorca, que c'est là où le bât blesse. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort aujourd'hui, quand on a une pathologie mentale, quand on est sous traitement? Qu'est-ce qu'on fait?
C'est un problème extrêmement important parce qu'en fait, bien évidemment, on a parlé des structures ambulatoires, d'être soigné, mais la vie, c'est pas être soigné, c'est travailler, habiter.
C'est sortir de l'hôpital.
C'est tout ce qui fait ce qu'est la vie de tout le monde. Et en fait, tous les problématiques autour de comment on soutient l'obtention du logement, comment on fait en sorte d'inclure les gens dans le travail. Nous, on développe des programmes de soutien en emploi pour que les gens puissent aller travailler non pas dans des milieux protégés, mais des milieux ordinaires, mais avec des conditions qui leur sont spécifiques. C'est-à-dire travailler à mi-temps, négocier des contrats de travail qui ont à voir avec les capacités de l'individu. Ça se fait, ça se développe sous l'égide de structures type Cap Emploi, mais ça reste des choses qui ne sont pas encore assez développées et qui demandent une vraie impulsion pour pouvoir se mettre en place. Et tous ces aspects-là, c'est vraiment un enjeu énorme. C'est vraiment l'enjeu. Et puis avec l'articulation, les problèmes classiques, mais qui ne concernent pas que la psychiatrie, entre le sanitaire, le médico-social et le social, qui sont une vaste quelque chose que les ARS sont censés prendre en compte.
Les agences régionales de santé.
Les agences régionales de santé, elles ont été créées pour cela. Et en fait, ça reste encore une difficulté.
Les choses sont cloisonnées, il n'y a pas d'interconnexion.
Il y a des interconnexions insuffisantes. Et les agences régionales de santé font des efforts, mais en fait, c'est pareil, il faut des impulsions politique, plus l'impulsion politique est forte, plus on peut espérer modifier un système dont on est les tenants, puisqu'en fait nous en sommes membres et en fait c'est quand même notre système.
Ce sera le mot de la fin, il nous reste moins d'une minute, parce que c'est une véritable demande de la part des patients et de l'entourage aussi qui est directement affecté par ce qui se passe lorsque quelqu'un tombe malade, parce qu'on parle bien encore et toujours de maladie.
Absolument, et nous avons fait cet ouvrage en collaboration avec des associations de patients et de familles de patients, et nous essayons ensemble de porter cette parole pour essayer de modifier le champ dans lequel auquel nous sommes confrontés tous les jours.
Quelqu'un qui a une maladie mentale, c'est pas forcément l'autre.
Exactement.
C'est quelqu'un parfois tout à côté de chez soi. Merci beaucoup. Merci Pierre-Michel Lorca d'avoir participé à cette émission en nous livrant votre plaidoyer pour la santé mentale. Analyse que vous avez rassemblée au sein du trait dense Psychiatrie, l'état d'urgence, publié aux éditions Fayard.
Priorité santé sur RFI.
C'est aujourd'hui qu'est lancée la campagne pour le Pasteur Don, opération annuelle d'appel au don de l'Institut Pasteur. RFI participe. On en parle tout de suite avec vous, Pascal Vonage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes post-doctorante à l'Institut Pasteur. Vous co-dirigez le projet de recherche Afribiota. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Mais d'abord, Pascal Vonage, pour bien faire comprendre aux auditeurs, au grand public, donner lors du Pasteur Don, à quoi ça sert exactement? Ça sert à quoi? Ça sert à qui?
Le Pasteur Don, c'est une opération en fait que l'Institut Pasteur fait chaque année pour collectionner surtout des fonds. Parce que la recherche, c'est beaucoup de patients par nous les chercheurs, mais en même temps, c'est aussi beaucoup d'argent qui est nécessaire. Et l'Institut Pasteur repose vraiment aussi sur la générosité du public. Donc il y a un tiers à peu près de tout le budget en fait qui vient des donateurs. Donc les donateurs, ça peut être des personnes individuelles ou des fondations en fait qui donnent et qui nous permettent ainsi de faire les recherches en fait pour avancer la santé.
Alors on comprend bien donner de l'argent, mais pour savoir à quoi ça sert, on va illustrer tout de suite avec justement ce projet auquel vous participez, vous le co-dirigez, Pascal Vonage. Afribiota, c'est lié à la malnutrition infantile. Vous nous parlez du microbiote, ce qui se passe dans notre ventre, toutes ces protections, tous ces micro-organismes justement pour notre défense ou l'attaque immunitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément de quoi, en quelques minutes, de quoi il retourne ?
Donc, en fait, la malnutrition infantile, c'est toujours un grand problème, car il y a à peu près un quart de tous les enfants qui sont infectés dans le monde. Et juste pour situer un peu le problème c'est que même qu'il y a ces chiffres très impressionnants, on n'a toujours pas de traitement, et notamment on l'a pas parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans le ventre de ces enfants. Et Afribiota, en fait, on essaie vraiment de mieux comprendre l'écosystème qui existe dans le ventre de ces enfants, donc de savoir quels sont les microbes qui sont présents chez les enfants qui sont sains, quels sont les microbes qui sont présents chez les enfants qui sont malnutris et comment ils sont changés, et pourquoi en fait ces enfants seront du coup en fait malnutris. Et ce qu'on a pu montrer dans le passé, c'était que ces enfants avaient en fait ce qu'on appelle une décompartementalisation de l'intestin. Donc du coup qu'ils avaient des microbes qui se retrouvaient soudain à des endroits où ils n'avaient rien à faire, qui induisaient en fait probablement une inflammation et du coup en fait rendaient l'enfant malade.
Alors, Institut Pasteur dit des structures de recherche réparties un petit peu partout sur la planète. Justement, à Afribiota, eh bien, vous travaillez bien sûr de Paris, l'Institut Pasteur de Paris, mais aussi à Madagascar et à Bangui. Comment ça se passe, cette collaboration ?
Donc, on travaille effectivement main dans la main avec des équipes médicales et de chercheurs sur place. Donc, le recrutement s'est fait sur place et aussi une partie des analyses. Et après, en fait, on est vraiment, si on peut dire, un projet tripartite. Donc, on travaille quasi quotidiennement tous les trois institutions ensemble afin de recruter les enfants, faire les analyses, discuter les résultats et aussi, en fait, essayer de réfléchir à des façons à les mettre après au bénéfice, en fait, des patients.
Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour cet éclairage, Pascal Vonage. Je rappelle que vous co-dirigez le projet de recherche Afribiota et on le redit, 12e édition du Pasteur Don. C'est jusqu'à dimanche pour collecter des fonds pour la recherche, pour la santé. RFI est partenaire, donné pour se mobiliser et au téléphone, ça se passe sur le numéro 3620 sur internet www.pasteurdon.fr. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Assez Toussamaké, Ophélie Lassène, Victor Hull, Laurence Naud. Demain, notre rendez-vous mensuel avec le docteur Catherine Solano pour notre émission spéciale sexualité. Vos questions sur la séduction, séduire et continuer de séduire. Des questions au 33 1 84 22 75 75. On attend vos appels et vos messages sur notre page Facebook. On se retrouve bien sûr demain.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.